peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
La seule incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
J'adore la fin de ce générique.
Avec le petit silence qui apparaît.
Oui, ah oui, voilà, c'est sûr que là, c'est la fin du générique, c'est le début de Source, l'émission du ou des libres de Radio Campus, la radio, la communauté, l'université libre, oh, comme par hasard, de Bruxelles. Et on est un premier ou un troisième vendredi entre 18h et 19h30 en général. Et aujourd'hui, c'est du direct, c'est la reprise du direct sur notre antenne. C'est petite vacances de Halloween. Et une émission peut-être même un petit peu étrange parce que nous renouons à Campus en interne comme ça avec les informels et le petit apéro de Campus. Eh bien, tombe le premier vendredi du mois.
Et du coup, nous excusons en avance des différents papotes qu'ils vont avoir peut-être dans les micros.
Voilà, ce serait une émission un peu chahutée, des portes vont s'ouvrir, des portes vont se claquer, des vaudevilles.
Il y a peut-être des autres voix qui vont apparaître ou disparaître.
Voilà, tout à fait. Donc là, nous sommes totalement ouverts à l'improviste et à l'impromptu. Et voilà, nous ne pourrons recevoir que 5 personnes en studio. Un micro nous a fait défaut, là, malheureusement.
Mais je comprends, après la fête des morts.
Lui aussi, oui.
Lui aussi, il peut se reposer.
Il est parti là-bas.
Et ouais. Sinon... on entendait Fredux, qui est à la technique aujourd'hui, et moi c'est Terre et Rock. Et il y aura peut-être d'autres humains qui vont se présenter plus tard.
Oui, voilà. En fonction des arrivées, petite fanfaronnade de chez nous. Mais écoute, tant que l'apéro débute, qu'il n'y a pas encore trop de monde et que nous ne soyons pas encore trop chahutés, il y avait un petit quelque chose et tu avais envie de nous entretenir.
Oui, parlons de... Quand on fait un RM ou un RF slash sur nos ordinateurs.
Oula, alors.
Alors, ça veut, en gros, ce que je viens de dire comme un pour... gros barbare, c'est juste supprimer tous les fichiers de son ordinateur. Ça arrive, c'est déjà arrivé à l'un d'entre nous.
Et ça arrivera encore.
Et ça arrivera encore.
Donc RM étant une petite commande d'une efficacité redoutable.
Qui supprime, sans te demander ton reste, les fichiers que tu demandes de supprimer.
Ouais. Et -R pour
récursif, donc les sous-dossiers et les fichiers qu'il y a dans les sous-dossiers.
Et sous-dossiers.
Et, et le F pour me pose pas de questions, supprime tout.
Ah ouais, force.
Voilà.
Brute force.
Et en fait, je voulais un peu discuter de ça et d'avoir les. Bah, entre autres, ton expérience sur toutes les boulettes qu'on a déjà faites et que c'est pas très grave parce qu'on va plus les refaire parce qu'on a appris. Qu'est-ce que tu as déjà fait comme boulette?
Comme ça, dans le monde de la petite bureautique domestique classique, oui, effectivement, d'une grosse boulette de fête. Il y a une distribution qui est très chouette pour les enfants. Ma boulet du, je crois. Donc, j'avoue, vous voulez installer ça sur l'ordinateur familial, à côté d'un autre système d'exploitation dont on peut taire le nom tant qu'on n'a pas fini l'apéro. Sinon, on peut pas roter au micro.
C'est compliqué.
Et donc, cette distribution-là a fait qu'elle occupait directement tout le disque dur. Donc, il n'y avait pas moyen de faire cohabiter une partition libre Linux, GNU/Linux et justement tous ces petits jeux pour enfants ludopédagogiques. Et donc, j'ai écrasé tout le disque dur de l'ordinateur familial.
Ah, c'est sympa.
Oui.
Ah ouais, c'est très chouette.
Et donc là, c'était parti pour utiliser un autre programme qui s'appelle PhotoRec et qui permet de retrouver tous les fichiers effacés de la table des matières.
On essaie de récupérer quelques documents.
Juste que on s'est récupéré le fichier, mais on a perdu le nom du fichier lui-même. Donc il est remplacé par un FO 08 692 483 693 22 13. Voilà. Et après, il faut donc renommer tous ces fichiers à la main. Mais ça, c'était pas moi à le faire. Donc voilà, j'ai une petite boulette dans le genre effacement de données, c'est assez...
Ah ouais, c'est radical.
Ouais.
Moi, pendant longtemps, j'installais la mauvaise distribution pour les personnes. Mais en gros, j'installais du Debian pour des personnes qui n'étaient pas spécialement à l'aise avec les ordinateurs, ce qui n'était pas le choix le plus judicieux. Et ça a pris un peu de temps avant de réaliser de « Tiens, est-ce que ce serait peut-être pas mieux de mettre un Mint, une Ubuntu ou autre chose ?»
Ou autre, là, tu mettais les gens directement face à une certaine, entre guillemets, austérité.
Assez élevé,
ouais,
quand même. Mais tout ça, c'est aussi pour un peu dédramatiser et expliquer qu'on fait aussi des erreurs et que ça nous arrive. Il y a assez récemment, j'étais à Radio Campus et j'ai malheureusement détruit une de mes partitions parce que je voulais copier un fichier sur une clé USB et j'ai choisi le disque dur à la place.
De la clé USB, ok, ouais. Wow.
Donc c'est assez fatal, je peux vous le dire. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pour ça qu'on a des chouettes événements comme le BXLUG, où on peut venir en disant « Oups, j'ai fait une boulette, est-ce qu'on peut m'aider ?»
Oui, les urgences. Voilà, ouais, le SAMU informatique, on appelle ça.
Et il ne faut pas en avoir peur. Parce que moi, je connais plein de gens qui me disent « Oui, mais j'ai peur d'être jugé, j'ai peur d'avoir fait une telle grosse boulette que c'est impensable de réparer. » Certaines, c'est clair. D'autres.
Bon, déjà, une manière de se faire pardonner d'entrée de jeu, c'est tournée générale, par exemple. Ça détend l'atmosphère et après, on retrousse les manches.
C'est une technique. Mais voilà, c'était un peu pour dédramatiser, surtout que je voulais aborder ce sujet. C'était vraiment montrer que, autant techniciens que nous sommes, nous restons des humains et l'humain est faillible. Et il faut juste l'accepter.
Oui.
C'est pour ça qu'on fait des backups, par exemple.
Du bon usage de la sauvegarde, oui, de fait. Ouais. Une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Une bonne fréquence de backup de sauvegarde.
Mais pour mon usage à moi, il n'est pas humain, donc je ne vais pas exprimer mon usage.
Okay.
Mais la question toujours à se poser, c'est combien de temps je peux perdre des données. Est-ce que je peux perdre une semaine de travail, un mois, un an? Et c'est en fonction de ce qu'on est prêt à perdre qu'on fait la fréquence de sauvegarde. Moi, je suis pas prêt à perdre beaucoup. Du coup, je sauvegarde très souvent.
Mais c'est
toutes les heures.
Toutes les heures, ouais.
Par exemple. Mais c'est mon usage.
Ah ouais, c'est parce que ton niveau de boulot est à ce niveau-là. Et que les données que tu traites, effectivement, ne peuvent pas rester une semaine sans être inaccessibles, sans être accessibles.
Mais par exemple, un ordinateur qu'on allume que deux fois semaine, c'est peut-être pas nécessaire de le sauvegarder toutes les heures.
Mais juste rappeler que c'est beau, c'est pratique, c'est rapide, c'est beau, le magnétique des disques durs ou l'électronique des cartes SSD. Mais si ça n'existe qu'en un exemplaire, sur un disque dur...
Y a alors un autre petit exercice que je fais plus ou moins tous les trimestres, c'est restaurer, donc reprendre ma sauvegarde et voir si elle contient des données qui sont cohérentes. Parce que faire une sauvegarde qui a l'air de sauvegarder mais qui ne sauvegarde rien du tout, c'est triste quand on le découvre. Donc là aussi, c'est bien de sauvegarder, mais c'est bien aussi de temps en temps de restaurer pour s'assurer que ce qui est sauvegardé est vraiment pertinent.
Ok. Et sauvegarde dans le nuage, c'est une pratique que tu vois de quel œil ?
Ça dépend, est-ce que c'est moi qui contrôle le nuage ? La question de sauvegarde, elle est identique que pour les données personnelles. Enfin, que pour ses propres données. Est-ce que je peux faire confiance là où je dépose mes sauvegardes ? Et si je ne peux pas faire confiance, est-ce que je peux chiffrer mes sauvegardes ? Donc les rendre illisibles à la personne à qui je les dépose.
C'est ça, enfin, le fait de garder des sauvegardes à la maison, c'est un peu sur un disque dur externe, c'est un peu sur une clé USB, mais voilà, on se disait que si à un moment donné la foudre tombe sur la maison, toutes les sauvegardes disparaissent en une fois, donc les décentraliser, elles aussi, c'est une sauvegarde stratégique.
Alors, moi, j'aime bien commencer petit. Si personne ne sauvegarde, enfin, si vous ne sauvegardez pas encore, achetez-vous un disque dur externe, même si c'est chez vous. C'est déjà une première étape. Mmh. Et après, on se pose des questions sur quels sont les risques qu'on est prêt à prendre. Est-ce que je peux accepter que ma maison brûle avec mes sauvegardes? Si la réponse est non, est-ce que je peux aller chez un ami déposer mon disque dur?
Voilà.
Par exemple.
Et en termes utilitaires de sauvegarde, bon, j'imagine que toi, à ton niveau, ce sont des outils ultra spécifiques, mais pour nos amis utilisateurs et utilisatrices de systèmes libres, as-tu des recommandations de programmes à faire pour les backups, les sauvegardes et tout ça?
Tout un temps, j'utilisais Backup PC, parce qu'il a une interface graphique pour faire les sauvegardes. Et ce qui est assez malin avec ce programme, c'est qu'il ne va pas sauvegarder à chaque fois tout votre disque dur, mais juste la différence entre la dernière sauvegarde et votre disque dur. Ça permet d'économiser un peu de place. Donc c'est lui que je recommanderais, qui se trouve dans toutes les bonnes crèmeries des distributions Linux.
Oui. Et Lucky Backup, ça te dit quelque chose?
Je crois que j'ai juste déjà vu, mais je
ne l'ai pas testé. Mais tous ces programmes utilisent une autre commande magique. En plus du RM, il y a rsync.
Oui.
Avec une tripotée d'extensions -l -m -s -2t. Voilà, si vous voulez le faire à la main, vous pouvez effectivement faire ce genre de sauvegarde incrémentielle et tout ça, tout ça.
Bah, pour ça, du coup, il y a Borg Backup en ligne de commande. Qui ne fonctionne. Donc, il peut sauvegarder ce qu'on appelle en local, donc ça peut être sur un disque dur, mais c'est rattaché matériellement à l'ordinateur qui est sauvegardé, ou à distance, via SSH, c'est le seul protocole qui supporte. Mais il a l'avantage de pouvoir donc, compresser, quand c'est possible, éviter la déduplication, donc c'est-à-dire que quand on a deux fois le même fichier, il sera sauvegardé qu'une seule fois, et chiffré.
Ah oui.
Donc il y a une passe-phrase qui demande à chaque fois avant de commencer le backup pour pouvoir chiffrer tout le backup.
Ok, ouais, parce que ce principe-là, je ne l'avais pas encore vu dans le Lucky Backup. Mais et donc là, c'est vraiment juste des sauvegardes de fichiers qu'on a créés et conçus. Parce que des utilisateurs, utilisatrices plus nantis ou qui viennent juste de faire leur communion et qui se sont vus offrir un beau Apple, il y a le fameux Time Machine là-dedans qui a son équivalent maintenant dans le libre.
Oui, j'ai oublié le nom de Time Machine libre.
C'est le Time Shift.
Et pour un peu expliquer à nos auditeurs c'est quoi le Time Machine de Apple, c'est quelque chose d'un peu automagique qui va sauvegarder un peu tout seul le contenu de vos ordinateurs Apple, mais aussi des périphériques genre iPhone. C'est un peu automagique.
Ça permet de relancer un système qui se serait planté ou qu'on va remettre dans un autre, plus nouvel ordi. Voilà, Time Shift fait ça aussi maintenant. Donc, en plus de sauver les données personnelles, il y a moyen de sauver le système, semble-t-il. Donc, de pouvoir réinstaller en cas de pépin grave, très très grave.
Complètement.
On peut à ce moment-là remettre en route un nouveau système comme à l'ancienne, comme s'il ne s'était rien passé.
Et sur Android, il y a aussi la sauvegarde un peu automatique d'Android qui est possible et on peut l'accrocher à un Nextcloud. Du coup, à un endroit qu'on fait confiance, qu'on gère soi-même. Mais ça permet de faire des sauvegardes régulièrement aussi de son téléphone.
Petite extension pour Android.
Il faut Nextcloud d'installer. Et, en tout cas, dans le monde Android, c'est par défaut. Nextcloud est nativement supporté. Ça, c'est un peu à vous à chaque fois à regarder qu'est-ce qui est supporté ou pas. Ça va être dans les paramètres sauvegarder le téléphone.
Ouais. Ok, mais voilà, de toute façon, donc Nextcloud, ou chez vous à la maison dans une petite brique, ou sur un des chatons.org, auquel on peut aussi faire confiance, dans la mesure où vos données restent vos données et ne sont pas comptabilisées. marchandisés. Et pour ça, je pense même que nous avons un certain Zenzla qui pourrait nous entretenir d'EvDroid, qui est aussi une autre banque de programmes que vous pouvez rajouter à votre Android pour rester dans les ordinateurs de poche. Hein. C'est vendredi, on peut s'apprêter à sortir après l'apéro, et donc on prendra plutôt son ordinateur de poche que son ordinateur portable bureau. Et
parfois aussi, c'est bien d'oublier son ordinateur de poche.
Oh oui, aussi, de fait. Mais donc voilà, c'était en 2019, c'était A Choisi le Roi, c'était la grande époque du passage en scène.
Qui est en train de préparer la prochaine édition, oui. Tout doucement.
Tu as vu passer des infos là-dessus?
Non, en tout cas, l'édition 2022 est en cours de réflexion.
Mmh. Oh, oui.
C'est bien, ça commence à... Cette petite pause de tous les événements commence à s'estomber.
Bien, écoutez, nous, on va aller voir un petit peu qui nous pouvons remettre autour des micros par ici. Passage en scène. Sur le smartphone, peut-on utiliser uniquement EvDroid comme store d'application?
C'est bon, on a réglé le problème. C'est compliqué quand même quelquefois quand on travaille jusqu'à... On prépare ses slides à l'arrache. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Zenzla, on va voir aujourd'hui ensemble un petit retour d'expérience en fait, et le retour d'expérience c'est est-ce qu'on peut vraiment utiliser son smartphone avec uniquement comme store d'application EvDroid. Voilà, c'est un peu un retour d'expérience que voilà, moi j'avais uniquement sur mon téléphone EvDroid pendant voilà, 3 ans, et comme vous l'avez vu dans la description de la présentation, aujourd'hui j'ai laissé tomber et on verra pourquoi. Donc le sommaire de cette présentation, il y aura une petite présentation, la surveillance et moi, le passage à l'acte, comment je suis passé en full libre sur mon téléphone, le rétropédalage et une conclusion où il n'y aurait pas de conclusion. Peut-être. Donc, si vous avez vu... Non, c'est qu'il y a un bug ici. Voilà. J'ai recyclé énormément les slides. Donc, ceux qui ont déjà assisté à une de mes présentations, ils auront une sensation de déjà-vu. Et la sensation, elle est... c'est pas juste une sensation, c'est que c'est vrai. Donc, vous avez déjà vu les slides. Bon, apparemment, ça, c'est un truc de dingue. Donc, on commence par le bas. Je suis un ex-Google addict. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai fait beaucoup de webmastering. J'ai beaucoup créé des sites Internet. Et quand on crée des sites Internet, en général, on est un Google addict. Pourquoi? Bah, parce qu'on veut utiliser Google Analytics. On utilise Google AdSense pour gagner de l'argent. Et oui, au début des années 2000, ça marchait super bien. En fait, tout le monde cliquait sur la pub, c'était super cool, on gagnait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, voilà, donc avec ma sensibilité, je suis passé de l'autre côté du miroir. Google AdSense et Analytics, c'est vraiment le pire des choses qui peuvent se faire. Donc, je suis aussi président d'une association qui est Route 66, qui est un petit gul dans le 78. On fait des choses super sympas. Donc, si vous êtes dans le coin, venez nous voir. Voilà, on fait des conférences, des ateliers, des permanences. Et on essaye de faire des trucs voilà, intéressants. Je suis aussi un animateur des cafés vie privée, même si aujourd'hui, les cafés vie privée, on est moins actifs depuis quelques années. Depuis un an à peu près, mais je suis un animateur des cafés vie privée depuis 2014 et je mets admin 6, en tout petit c'est écrit en herbe, parce que voilà, je suis un éternel en fait, administrateur amateur. Alors la surveillance et moi, comme je vous ai dit, c'est un retour d'expérience, hein, donc... Il y a ce texte-là, le gouvernement s'est mis à coucher avec toutes les infrastructures des télécommunications dans les années 40. Ils ont tout affecté, ils pénètrent dans nos comptes en banque, tes données informatiques, tes emails, ils mettent tes téléphones sur écoute, donc toute la panoplie. La moindre fréquence, le moindre fil, plus on est branché technologie, plus c'est facile pour eux de tout mettre en fiche. En fait, j'ai tiré cette citation-là d'un film qui date de 98, en fait, qui est Ennemi d'État. Et mine de rien, ce film-là, ça a été le premier truc qui m'a sensibilisé à la surveillance. Pourquoi ? Bah parce que je me rappelle qu'il y a eu une interview de Tony Scott, qui est le réalisateur, qui a dit que dans le film, il y avait plus de réalité que de fiction. Qui a vu le film Donc vous êtes quelques-uns à avoir vu Ennemi d'État. Donc dans le film en général, voilà, on démontre comment on peut tracer une personne, comment on peut rien qu'avec des satellites. Voilà, Tony Scott avait dit dans l'interview, et c'est ça qui m'a. J'avais vu le film, mais en regardant l'interview, c'était peut-être sur Canal Plus, je me rappelle plus. Il avait dit que il était plus proche de la réalité que de la fiction. Il y a aussi un document, c'était aussi un reportage d'envoyé spécial dans les, c'était en 99 ou en 2000, et c'était la première fois à ce moment-là où j'entendais parler de mouchard de poche, parce que le reportage se focalisait sur l'utilisation des téléphones portables qui émergeaient à cette époque-là. Tout le monde n'en avait pas, mais ça commençait à devenir grand public, et sur les passes, c'était les passes intégrales ou c'était pas du Navigo, c'était les carte intégrale SNCF, et la question qui se posait à l'époque, c'était est-ce que les Français seraient sous surveillance. Donc on voit déjà que la question se posait bien avant, au début des années 2000, avec la venue des téléphones portables. Et bien sûr, George Orwell. Donc tout ça a fait que déjà, je suis très tôt préoccupé de la surveillance. Mais ce qui m'inquiétait, c'était plus la surveillance d'État que la surveillance sur les réseaux Internet. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup d'applications Google, et ça, c'était toutes les applications que j'avais utilisées à un moment donné. Mais il y a 10 ans, j'ai acheté mon premier smartphone. C'était, vu que j'étais un Google addict, c'était bien sûr le Google Nexus One. Mais à ce moment-là, c'est à ce moment-là où je me suis posé vraiment des questions sur la puissance de Google, en fait. Parce que mine de rien, quand vous prenez un smartphone, vous voulez le réinitialiser, hop, les contacts reviennent comme par magie. Et ça, c'était à l'époque, ça n'existait pas. Si vous voulez vos contacts, il fallait les mettre sur la puce. Et Apple le faisait, mais j'avais pas d'iPhone. Et donc, c'était le premier smartphone que j'avais. Et on réinitialisait le téléphone, on mettait son compte Google, et on avait notre agenda qui revenait à l'initial. On avait tous nos contacts, 100 et quelques contacts. C'était merveilleux. Et donc, je me suis posé, mais où sont hébergés tous ces contacts, en fait, mine de rien. Donc, se pose la question aussi de la géolocalisation. Où sont hébergés ces contacts-là? Où sont hébergées les photos? Parce que il y a aussi les photos qui allaient dans, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, Google Photos peut-être. Non, c'est le Drive. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'appelle Drive. À l'époque, ça s'appelait Google Photos. Et je me posais aussi la question qui a accès à mon agenda et qui récolte les données du téléphone. Donc, tout ça, c'est venu avec le premier smartphone. Et à un moment donné, je me rappelle qu'on était lors d'une formation, on discutait, j'avais dit à des personnes là, j'avais dit, ouais, mais maintenant, en fait, c'est facile de nous géolocaliser, il suffit juste à Google de regarder la géolocalisation des téléphones. Ah ouais, mais non, mais t'es parano, t'es bon, toute la panoplie, je vous épargne la parano je vous évite tout ce qui s'est dit sur les parano, ouais, mais tu vas trop loin et tout ça, mais... Pour pas longtemps, pourquoi ? Parce que il y a eu les révélations d'Edward Snowden. Et je pense que Edward Snowden a fait beaucoup de bien aux personnes à qui on traitait de parano. Quoi. Parce que avant les révélations d'Edward Snowden, on avait beau dire que c'était possible, mais tout le monde nous traitait. Voilà, tout le monde nous disait que ouais, on était un peu sur les bords parano. Je me suis, après un tout petit peu, je me suis investi dans tout ce qui était les cafés vie privée. J'avais déjà quelques connaissances dans le chiffrement. J'avais des connaissances, un tout petit peu de connaissances, des connaissances en sécurité, on va dire, informatique. Mais je me suis plus préoccupé sur tout ce qui était téléphonie. Mais en faisant des cafés vie privée et quand vous vous occupez de la téléphonie, vous dites... aux personnes, oui, mais attention, il ne faut pas utiliser le Google Store et tout ça, mais je me sentais un tout petit peu, non légitime. Pourquoi ? Parce que sur le téléphone, même si j'utilise sur mon téléphone, il y avait quand même le Google Store, ça s'appelait à l'époque, ou j'ai oublié, en tout cas, il a changé de nom. J'utilisais comme... Donc, on n'était pas légitime, en fait. On avait beau dire, oui, utilise F-Droid, comme ça, tu as les applications libres, ça ne va pas te traquer, ça ne va pas te suivre. Mais quand même, sur le téléphone, il y avait toujours un Google Store. Et c'est cette raison-là, en fait, c'est cette raison de ne pas être légitime, en fait, qui m'a poussé à que mon téléphone soit vraiment en full libre. Quand je dis en full libre, c'est qu'il n'y avait aucune application qui n'était non libre. C'est que j'avais F-Droid et mon téléphone, et à l'époque, c'était Cyanogen. Et donc, mon téléphone, il y avait le Cyanogen Mode et uniquement les applications de F-Droid. Qui, dans cette salle-là, a la même configuration. Pas Cyanogen, hein, mais F-Droid, mais Lineage, avec uniquement des applications libres. D'accord. Non, uniquement libre, hein. Ni Yelp Store, ni Aurora, ni rien. Parce que Aurora, vous installez des applications qui sont non libres, mais je veux tous les full libres. Donc il y en a une, peut-être. Une personne. Voilà. Donc il n'y en a pas beaucoup. Justement, j'ai été, même dans les cafés vie privée, je passais pour un extrémiste. Donc j'avais uniquement les applications libres et c'était vachement compliqué. Bah oui, parce que F-Droid, il y a. En 2015, il n'y avait pas énormément d'applications. Je pense qu'ils avaient dépassé la barre des 1000 applications à cette époque-là. Donc, adieu les jeux. Je jouais énormément sur téléphone. La preuve, c'est que je vous nomme des jeux ici. Je ne sais même pas... Doodle Jump, par exemple. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il existe encore. Plants vs Zombies. Donc voilà, je jouais à ces jeux-là. Je jouais énormément sur smartphone. Et il y avait des applications aussi, comme Joyce SSH, Twitter, Google Maps, Waze, etc. Donc tout ça, c'était, voilà, c'était adieu à toutes ces applications-là. La peur que j'avais, c'était de passer pour une personne qui était voilà, has-been, parce que tout simplement, il n'y aura plus... On n'aura plus les applications en fait qui sont à la mode ou que tout le monde utilise. Toi, tu vas utiliser uniquement les applications de F-Droid. Donc, c'était vraiment un tout petit peu extrême. Mais au bout de quelques mois, franchement, on se sentait délivré, libéré, et c'est une vérité en fait. Quand tu utilises uniquement les applications libres, tu as vraiment confiance en ton téléphone. Bon, tu sais qu'on peut, si tu es une cible, que ce soit de la NSA ou du gouvernement, un peu, mais en tout cas, tu as vraiment confiance à ton téléphone, dans les applications de ton téléphone. Alors, les applications que j'avais, c'est une liste qui est non exhaustive. On a c'est du basique, hein. On a du Canine, Orbot, VLC, NewPap, du Twitter, du Wi-Fi Matic, c'était pour couper le Wi-Fi lorsque tu es chez toi. Il active le Wi-Fi. Quand tu sors d'une zone où toi, tu n'as pas activé manuellement le Wi-Fi, il le désactive. Puis, voilà, les clients XMPP, OnCloud, voilà. Donc, c'est des applications que j'utilisais. Mais j'ai fait marche arrière, c'était il y a un an à peu près. Ah merde, je spoil la fin. C'est pas grave. Je suis resté sur cette configuration jusqu'à juillet 2018. Alors, ce qui m'a fait revenir à une utilisation dite normale, je veux dire, c'est la première chose. La première chose, c'est une grosse pression familiale. Pourquoi ? Bah parce que tout simplement, j'utilisais jamais les applications que eux utilisaient, que la famille utilisait. Il faut dire que j'ai ma famille qui habite pas en France. Et donc, la chose la plus simple pour me contacter, c'était Viber. Oui, c'était Viber. C'est une application qui est un peu comme WhatsApp, en fait. Et donc, le seul moyen de m'appeler gratuitement, ou voilà, on peut dire gratuitement, c'était Viber. Et j'avais subi une pression énorme pour utiliser ces applications-là. Et c'était vraiment compliqué. Quand tous les jours, on vous rabâche la même chose, en fait je me dis aujourd'hui que c'était quand même du harcèlement, en fait. C'était du harcèlement. Harcèlement familial, c'est que tous les jours, on te rabâche la même chose. Et à un moment donné, on craque, en fait, pour ne plus entendre « Ouais, mais c'est ta faute, pourquoi tu n'utilises pas telle application ? Arrête avec tes conneries de libriste. » Bah, t'as beau leur expliquer, et je pense que vous êtes bien placés, vous avez beau expliquer, mais non, mais c'est important parce que voilà, on évite tout ce qui est le tracking, on évite que nos données personnelles soient chez nos amis Google et compagnie. Bah, mais eux, ils s'en foutent, quoi. Parce qu'il faut dire, voilà, ma famille est dans le Maghreb et la problématique de la captation des données personnelles au Maghreb, mais ils s'en foutent, mais complètement, c'est pas ça le plus gros problème. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont plus importants que la captation des données personnelles. Donc, eux, ils ne comprenaient pas le fait que je n'utilise pas des superbes applications qui permettent d'appeler l'étranger gratuitement. Voilà. Ce qui m'a fait aussi réfléchir, c'est une totale méconnaissance des applications qui étaient à la mode. Donc, comme Snapchat, par exemple, je connaissais, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas Snapchat. Il y a Instagram, même je disais Instagram, en fait, tellement je ne connaissais pas le truc. Ils me disaient, ouais, t'as Instagram? Je disais, non, je n'ai pas Instagram. Je pensais que ça s'appelait Instagram. Et il y a aussi le... Alors ça, c'est marrant, c'est le phénomène Momo. Je ne sais pas si vous connaissez le phénomène Momo. En fait, c'est ouais, moi aussi je connaissais pas en fait. C'était lors d'un café vie privée et il y avait une dame d'un certain âge qui m'avait dit oui mon fils voilà il n'arrête pas de me prendre la tête avec le avec Momo machin. Je me disais mais c'est quoi un Momo? Oui, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je dois lui enlever le smartphone, etc. La problématique, je ne connaissais pas Momo. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, Momo, c'est une légende urbaine qui disait que il y a une personne qui contacte l'adolescent et qui lui demande de faire des challenges. Et même si ça n'a pas été prouvé ici en France, ils ont dit qu'il y avait des suicides, il y a eu, mais il y a, pour le moment, il n'y a pas eu de suicide. Ça a été confirmé qu'en France, il n'y a pas eu de suicide via ce phénomène-là. Mais c'était un phénomène super, je ne le savais pas, très répandu dans les réseaux sociaux. Et je me sentais un peu bête de ne pas pouvoir donner des conseils à cette dame-là, en fait. Et il y a eu aussi, mais ça c'est anecdotique, le changement de mon téléphone qui n'est pas compatible Lineage. Et maintenant, je vous ai dit que quand j'étais à 100% libre, j'avais une confiance, une grande confiance à mon téléphone. Je n'ai plus confiance aujourd'hui en mon téléphone. À chaque fois que je veux dire quelque chose, peut-être, je l'enlève, soit je l'enlève, je vais dans une autre pièce et je laisse mon téléphone dans une autre pièce. Voilà, je n'ai plus confiance en mon téléphone. Pourquoi? Bah parce que je suis revenu à une utilisation normale d'un téléphone. Je n'ai pas Yelp Store, je n'ai pas Aurora. J'utilise vraiment des applications qui viennent du store. J'essaie d'aller vite parce qu'on a perdu beaucoup de temps au début. Donc la majorité des applications restent quand même libres. Et je vais rarement sur le Play Store, en fait. J'y vais quasiment plus. Je pense que je n'ai pas installé une application du Play Store depuis 2 ou 3 mois. Et je ne joue plus. Même si je suis revenu à une utilisation normale du smartphone, mais je ne connais plus les jeux et je ne joue plus sur le smartphone. Et vraiment, mon ancienne config du full libre me manque. Ça, c'est incontestable. Je pense qu'à un moment donné, je vais le faire. La version Lineage OS sort pour mon téléphone, qui est un OnePlus 6T, j'installe Lineage OS, mais sans problème. Oui, il existe, mais c'est une version non initiale, non officielle. Et les versions non officielles, j'avais déjà testé, tu galères, tu perds 3 jours en fait à essayer de l'installer et c'est compliqué. La question, est-ce qu'un retour au flux libre est-il possible? Oui, c'est ce que je veux faire et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, pourquoi? Bah parce que tout simplement, je sais pas s'il y a le... Non, ça se voit pas, merde. Du côté gauche de l'écran, voilà, vous voyez que la majorité de mes applications restent libres, en fait. Et installées de DevDroid, alors que ce n'est pas le cas pour les applications non libres. Et les applications les plus importantes sont des applications qui sont libres. Les autres, voilà, il y a peut-être 2 applications non libres, et je ne sais plus lesquelles, parce que les slides... Donc, en tout cas, mes applications les plus importantes sont libres, et notamment l'application Nextcloud et l'application Canine, donc pour les mails. En résumé, j'utilise beaucoup plus les applications libres, et ces dernières sont beaucoup plus importantes pour moi sur mon téléphone. Donc oui, un retour au full libre est possible. Et la réponse à la question « est-ce qu'on peut vivre avec un téléphone uniquement avec les applications libres ?» ça veut dire uniquement F-Droid comme store d'applications, ma réponse est bien sûr est oui. Mais vous risquez un tout petit peu de vous couper d'une utilisation des personnes qui utilisent le téléphone de façon normale. Vous n'aurez pas un Snapchat, vous n'aurez pas Instagram, mais ça, c'est pas grave. Mais vous n'aurez pas Waze, par exemple, que beaucoup utilisent pour... Vous n'aurez pas l'application SNCF, ni l'application métro. Donc, il y a beaucoup d'applications que vous n'aurez pas. Mais avec les stores alternatifs, Yelp Store ou Aurora, vous pouvez les avoir. Même aujourd'hui, avec MicroG, vous pouvez avoir des applications qui étaient, à un moment donné, très compliquées d'avoir sur son smartphone. Donc, voilà. Il reste combien de temps, là ? Ouais, non, je suis dans les temps.
Il reste une vingtaine de minutes, donc on peut prendre plein de questions si on veut, et c'est cool.
Ouais, tu vois, j'ai perdu beaucoup.
On peut applaudir aussi avant.
Merci. Du coup, merci pour ton retour d'expérience. Je voudrais juste abonder avec... légèrement que le mien, parce que du coup, tu as dit tout ce que tu as perdu. Enfin, tu as listé tout ce que tu avais perdu et moi, j'y ai vu que des gains parce que, justement, je trouve l'inconvénient de tous les autres stores, enfin, du Play Store principalement, c'est que... Et il y en a aussi sur F-Droid, hein, mais ça permet d'éviter de perdre son temps sur des matchs 3 débiles. Et de par le fait qu'on est incité à les télécharger, qu'on est incité à les utiliser et que si on est dans les réseaux habituel, etc. Il est fortement recommandé de les utiliser comme tout le monde. Ce qui n'empêche pas de les utiliser. Hein. Je ne veux pas jeter l'anathème à ceux qui utilisent des matchs 3, mais je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Donc, je t'ai trouvé assez critique sur le fait de perdre ces choses-là. Là où, en fait, le libre, du fait de sa jeunesse, à l'époque où tu l'as utilisé, il y avait très peu d'applications, tu as pu te recentrer sur l'essentiel de l'utilisation de ton téléphone. Voilà.
Oui, en fait, quand je dis je perdais ça, c'était à l'époque. C'était quand vraiment je suis passé au full libre, je sentais ce manque-là. Surtout, je vais dire que c'était vis-à-vis des jeux, où dès que j'étais dans la salle d'attente d'un médecin, tu sors ton smartphone, tu joues. T'es dans le transport, tu sors le smartphone, tu joues. Et ça je pense que les jeux m'ont beaucoup manqué. Et je pense qu'il n'y avait qu'une seule application, c'était Deus SSH. Qui, elle, au niveau applicatif, elle m'a aussi... J'ai pas trouvé d'équivalent en libre, en fait. Donc voilà, c'est une application qui est vachement pratique et j'ai pas trouvé l'équivalent en libre. Mais sinon, ce sentiment-là, je l'avais quand je suis allé en full libre. Mais comme j'ai dit après, au bout de quelques mois, on se sent... Mais c'est vrai que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je joue plus sur mon smartphone. Pourtant, j'ai la possibilité. Il est beaucoup plus puissant qu'à l'époque, mais je joue plus.
Juste une petite anecdote, alors c'est par rapport à la pression pour Viber, donc tu as parlé. Donc moi j'ai subi cette pression-là pour WhatsApp, donc c'était le nouvel an dernier, et du coup ça m'a fait penser à voir ce que j'allais faire pour quelle application j'ai utilisée, comment faire pour convaincre mes potes. Donc avant d'avoir une solution on va dire, purement libre comme qui utilise XMPP qui serait l'idéal, pour l'instant, le compromis que j'ai trouvé et qui marche avec ma famille direct facilement et qui est en train de, doucement contaminer certains potes, même qui sont loin, donc c'est Telegram, donc qui est sur F-Droid. Alors ça reste une solution centralisée, je fais pas la promotion de Telegram, mais au moins ça peut permettre aussi d'être utilisé sans smartphone. On peut avoir un téléphone simple et du coup à chaque fois, sur mon téléphone, je peux même pas installer WhatsApp, au moins c'est réglé. Ça, du coup, j'étais surpris qu'avec le temps, au final, pour faire un groupe, des petits groupes proches peuvent passer sur Telegram. Et certaines personnes sont étonnées même que des contacts à elles, à cette personne-là, aient aussi sur Telegram. ce qui permet doucement d'amener sur d'autres solutions et de les faciliter pour sortir de WhatsApp. Donc il y a d'autres solutions, je parle de Telegram, c'est mon cas, mais il y a d'autres solutions qui permettent de...
En fait, dans mon cas, j'avais testé Signal. Je leur ai dit, ouais, mais installer Signal, ça peut être cool. Il y avait Telegram. Le problème, c'est que, à un moment donné, même Viber, je l'ai enlevé parce que ça fonctionnait pas. Et il y a que WhatsApp qui fonctionne, en fait. Parce qu'au Maghreb, la connexion est tellement merdique, en fait, qu'il y a que la puissance, malheureusement, derrière, il y a que la puissance de Facebook qui est derrière WhatsApp, où les conversations passent, sans problème. Même avec Viber ou avec Signal que j'avais testé. En fait, dès qu'une personne disait quelque chose à l'autre bout du fil, il fallait attendre peut-être 4 secondes, ou 5, ou même quelquefois, ça m'est arrivé, d'attendre 10 secondes pour pouvoir lui répondre, en fait. Donc, c'est vraiment compliqué, et c'est à un moment-là, moi, j'étais étonné quand j'avais testé WhatsApp, que ça fonctionne malheureusement, ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est cette contrainte-là et cette pression-là familiale qui m'a aussi revenu à une utilisation normale. Mais franchement, je pense qu'aujourd'hui, je me suis dit que ça vaut pas la peine. Il vaut mieux subir la pression que d'installer des merdes sur son smartphone, en fait. Voilà, même si Telegram, Signal, ça fonctionnait pas. Telegram, ça fonctionnait pareil que Signal, en fait, donc ça fonctionnait pas très bien. Mais je fais pas la promotion de WhatsApp. Je dis juste que la pression a été pour pouvoir communiquer facilement, et donc eux utilisaient Viber, même si maintenant ils sont plus passés à WhatsApp.
Merci. Quelqu'un a évoqué ce matin les applications que parfois on se retrouvait obligé, entre guillemets, d'utiliser, par exemple des applications de banque où on a besoin d'utiliser l'application mobile pour pouvoir s'authentifier et valider certaines opérations. Est-ce que tu t'es retrouvé confronté à ce genre de problème, par exemple ?
Comme j'ai dit, je suis revenu à une utilisation normale en juillet 2018. Ce problème-là, je vais revenir, moi, à une foule libre, et je vais être confronté à cette problématique-là. Mais comme je pense que c'était Aris qui avait parlé de cette problématique-là avec l'obligation d'avoir une application bancaire, moi, je sais pas si j'ai la chance. Quand Aris en a parlé ce matin, j'ai dit, ah, j'ai la chance quand même parce que ma banque m'a déjà donné un boîtier. Donc, pour la sécurité, ma banque m'a déjà donné un boîtier, donc j'utilise ce boîtier-là en question. Mais c'est vrai que cette problématique, je pense que lorsque comment elle s'appelle, la loi, c'est, DSP2, quand elle va arriver, elle va foutre tellement de merde que je suis convaincu qu'il y aura un rétropédalage de soit des banques, soit du gouvernement qui va obliger les banques à donner des solutions faciles, parce que c'est arrivé, ça arrive maintenant dans les transports en commun où à un moment donné ils voulaient tout mettre sur un smartphone, mais maintenant ils ont dit ouais non, vous pourrez toujours acheter des tickets, mais on sait que l'achat des tickets va coûter beaucoup plus cher qu'un abonnement qu'on va utiliser sur smartphone. Donc pour les banques, je vais voir.
Je passe à d'autres questions. Tant que tu parlais des transports, c'est intéressant parce que les tickets papier sont en train de disparaître à Paris. Je pense que dans d'autres villes, c'est le cas aussi, mais dans quelques mois, il n'y en aura plus. Donc le problème va arriver très vite, en fait.
J'avais entendu que ils sont revenus en arrière.
Ils vont faire des cartes rechargeables. Et en fait, au lieu de payer un ticket de métro,
on
rechargera un ticket de métro dessus. Mmh. Sauf que si on veut garder l'usage traditionnel de un ticket par voyage, au lieu de coûter 1,50€, ça coûtera 3,50€. Ouais. Voilà, c'est beaucoup.
Ouais. Pour rebondir là-dessus, c'est que à Lille, c'est déjà en place ce genre de système. Je viens de là-bas. Mais c'est plutôt bien fait, je pense que c'est des cartes réutilisables. Mais du coup, on achète notre carte 20 centimes, je crois, à l'achat dès le début. On peut la réutiliser plusieurs fois, mais c'est un ticket, c'est un prix classique. Donc, je pense que c'est plutôt un bon compromis. On a encore les tickets d'avant, qui sont rechargeables et on paye pas tellement plus cher qu'on a, on garde notre ticket qu'on peut utiliser 15, 20 fois, il me semble. Et après, on peut passer sur des cartes plastiques qui sont sans nom, comme un Pass Navigo Découverte, par exemple, qui sont aussi rechargeables à volonté pendant 5 ans. Je pense que c'est plutôt un bon compromis.
Alors, le souci, c'est que là, à Paris, ce sera pas 20 centimes, ce sera 2 euros. Donc là, on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur. Et aussi, le problème, c'est que, en fait, si on récupère ta carte, on n'a pas accès à l'endroit où tu es entré en métro. On a accès à tous les trajets que tu as fait avec ta carte. Et c'est le même problème qu'il y avait avec le Pass Navigo Découverte. Et on sait que ces données qui existent et qui sont utilisées. Il y a un an et demi, c'était au mois d'octobre 2017, sur le RER A, il y a eu plusieurs problèmes suite techniques dans le mois. Et ils ont dit, on rembourse 20 euros à tous les gens qui ont un Pass Navigo qui ont pris cette ligne-là sur le mois d'octobre. Donc ça veut bien dire que quelque part, ils stockent forcément ces données. Et ça reste un gros problème à ce niveau-là. Même s'il n'y a pas forcément de nom, on peut toujours retomber sur... sur un ticket jetable, si on peut lier ce ticket qui a été utilisé plusieurs fois à ta personne, on sait quel trajet t'as fait.
Et là-dessus, ce qu'il faut aussi voir, c'est demain, qu'est-ce que ça va être. S'ils ont des systèmes qui sont complètement dématérialisés, avec des passes et autres, il y a de fortes chances qu'ils rendent obligatoire le passage au mobile ou autre. Ils vont pas s'emmerder à maintenir deux systèmes et autres, et ça va tendre de plus en plus vers l'utilisation du mobile. Typiquement, les passes Navigo, c'est juste une expérimentation, et c'est déjà acté qu'en 2020, ça sera sur téléphone mobile. Donc, on se doute bien qu'au départ, ça sera facultatif, mais si ça marche, clairement, ouais. ils vont arrêter le format matérialisé.
Oui, c'est comme tu as dit ce matin, en fait, les libristes seront des citoyens de deuxième. Et c'est vrai, moi je vous encourage en tout cas à tester en fait votre téléphone en full libre, parce que c'est une expérience assez sympa, mine de rien, même si vous allez vous sentir frustré à un moment donné, mais testez et vous allez voir quand même que ça va être une vraie libération.
Bien, ça marche mieux. Simplement pour répondre aux interrogations concernant les tickets de transport, tout le trajet est stocké sur le pass. Les lois RGPD s'appliquent énormément sur toute la partie transport et les données ne sont autorisées que 48 heures puis anonymisées. Ça a déjà été abordé. Tout est stocké uniquement sur le pass. Et un truc qui a, je crois, pas été mentionné dans les 10 dernières minutes, c'est que le but de faire payer les tickets unitaires, c'est pour un but écologique, pas pour un but de traquer les gens. Parce que concrètement, on va pas traquer les gens avec un bout de carton. Oui, certes. Non, mais je laisse la parole à quelqu'un d'autre, c'est pas... Mais voilà.
Alors, je repique le micro, parce que pour dire que sur le point de vue écologique, le fait de payer un ticket de transport, c'est scandaleux de base. Parce que ça oblige déjà, ça rend le transport le plus écologique possible payant, et c'est pas une bonne démarche. Je me rends compte qu'on est complètement parti très très loin du sujet de la conversation, mais c'est pas grave. Et surtout,
c'est bien, ça anime le débat.
Un coût écologique qui est très important, toute l'infrastructure qui est nécessaire pour que ce système fonctionne, que ce soit la base de données, que ce soit les automates de paiement, que ce soit plein de choses, les contrôleurs également. Bon, ça, c'est un autre débat, mais... La conf d'après, elle n'est pas...
Parfait. Aussi, pour rebondir sur l'aspect écologique des choses, c'est que les applications qu'on fait aujourd'hui, en fait, prendre un Galaxy S4 avec F-Droid, ça fonctionne super bien. Avec uniquement les applications libres. Donc, déjà, c'est un gros geste écologique, en fait, de prendre un vieux portable et d'installer dessus Lineage. Et ouais, j'ai dit F-Droid tout à l'heure, c'est Lineage. Et en installant uniquement les applications d'F-Droid. Donc c'est aussi un geste pour notre planète, en fait. Et parce que les jeux où il y a des applications que vous pouvez installer qui bouffent quelquefois énormément de ressources du portable, et les vieux smartphones ne sont plus compatibles justement avec ces applications-là. C'était le geste écologique.
Merci. Une question, est-ce que vous avez essayé les progressive web apps, enfin les apps qui sont juste dans le navigateur en format web, donc juste avoir son navigateur et essayer d'avoir des raccourcis sur le home screen, ça fonctionne de mieux en mieux. Alors je sais pas comment en juillet 2018, c'est toujours très
déjà très au point. Non, personnellement j'ai jamais testé les full web apps. D'une parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça pour aller sur Facebook par exemple, qui veulent pas installer l'application Facebook, et comme j'ai pas de Facebook, donc voilà, c'est j'utilise pas ça. Sur Twitter j'installe aujourd'hui j'ai l'application Twitter, mais Twitter ne va pas l'application Twitter va pas me manquer si je passe en full libre. Twitter fonctionne super bien via Twitter. En plus, on peut avoir un double compte avec Mastodon et on peut tweeter en même temps, que ce soit sur Mastodon et Twitter. Et voilà. Sinon, le full accéder à une application avec le web, non. Sur le smartphone, en tout cas. Oui. En micro. Micro. C'est quoi Aurora? C'est un store alternatif. C'est comme Yelp Store. Comment? C'est comme F-Droid, en fait, où tu vas télécharger des applications, mais qui viennent du Play Store, en fait. Il n'y a pas uniquement que des applications. Il n'y a pas les applications F-Droid. Sur F-Droid, il y a uniquement les applications libres. Et les applications safe aussi. Parce qu'il y a des applications libres qui ne sont pas sur F-Droid. Parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à être 100% libres, ou ils utilisent des API qui sont non libres. Même s'il y a une exception peut-être sur même Firefox, je pense qu'il n'y est plus. Il y a Firefox Lite qui y est, mais je suis pas sûr que Firefox y soit. Il y est. Il y a par exemple Cozy Cloud qui n'a jamais été sur F-Droid. Je me suis toujours posé la question pourquoi. Il y avait une autre application aussi qui était libre mais qui n'était pas sur F-Droid parce que elle ne répondait pas aux exigences d'F-Droid.
On a le temps pour encore 2-3 remarques, slash questions.
Donc pour reprendre, quand tu disais que ton téléphone avec il était avec que du libre ou il y avait que F-Droid finalement. Est-ce que ça change quelque chose d'utiliser est-ce que il y a des applications libres pas sur F-Droid qui sont importantes, stratégiques, etc.
Ah non, j'avais que des applications venant d'F-Droid, uniquement d'F-Droid. J'avais pas d'autres, comme j'ai dit, j'avais pas le Play Store, j'avais pas le. Oui, plus les applis venant de, c'était même Lineage, c'était. Cyanogen. Voilà. Et qui ces applis qui étaient libres. Donc voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci.
Ben, merci Zenzla.
Oui, merci
de d'avoir entretenu longuement sur effectivement ce passage au libre avec les petits ordinateurs de poche.
Et toi, d'avoir retrouvé cette interview et cette conférence.
Ah, Peertube.
C'est vrai. Et on parlait un peu en officiel pendant l'apéro, mais sachez que c'était sa fenêtre de passage en scène et que la prochaine édition est en préparation. Du coup, on va sans doute vous en reparler dans pas trop longtemps.
Oui, ça fera l'objet d'une... Un troisième vendredi sera peut-être plus loquace de notre côté, dans la mesure où... cette radio est en train de revivre après 18 mois d'empêchement et un peu plus. Donc voilà, certes, c'était pour vous entretenir de cette belle initiative d'avoir pu mettre à disposition des petits programmes pour petit ordinateur.
Oui, je me rappelle que toi, tu avais déjà parlé de F-Droid avec une application qui faisait des bruits d'ambiance avec la forêt, les oiseaux...
Tout à fait, oui.
Comment s'appelait cette application?
Noise. Donc voilà. Mais donc au premier chef, prenez votre navigateur internet de votre petit ordinateur de poche, tapez dedans fdroid.org. Vous arrivez sur l'interface web de cette belle compile de programmes. Vous en téléchargez et installez et acceptez que vous autorisez des sources non sûres.
Juste parce qu'ils n'ont pas été avec le petit cachet de Google. Hein. Mm-hmm. C'est juste ça qu'on entend par non sûr.
Mm-hmm. Oui, oui. Mais c'est le chouette aussi que des gars comme eux peuvent permettre le téléchargement du fdroid.apk, le nom des petits programmes installés dans les smartphones Android. Il y a quand même des politiques très contraignantes pour que le Apple Store ou le Google Play Store hébergent des programmes venant de l'extérieur.
Complètement, et même pour preuve, il y a un procès qui s'est fini, mais qui est en train d'être en second procès, en appel. Donc c'était le Epic Game Store. Donc Epic, c'est une société qui a entre autres fait le jeu Fortnite et qui se plaignait très fortement de la commission que Apple et Google se prenaient sur les abonnements de Fortnite.
Ouais.
Pour vous dire, en gros, c'est 30% du prix. Donc si vous payez avec Google Play Store ou Apple Store, bah il y a 30% qui reviennent à la plateforme. C'est un peu moins vrai parce que maintenant ils ont un peu réduit. Ils sont à 15%. Quand on est en dessous d'un million de chiffres par an de dollars. Voilà. Mais bon. Mais typiquement, beaucoup d'applications du jour au lendemain peuvent être censurées, peuvent être arrêtées selon les politiques qui mettent en place. On a déjà vu, par exemple, des applications sur l'Apple Store disparaître parce qu'en fait, Apple allait fournir son service après. Voilà. On peut parler de Google et de son problème de la nudité, typiquement. Alors, il y a une chouette application sur Google Play Store qui s'appelle Podcast Addict, qui est justement pour écouter des podcasts et être abonné à des flux RSS de podcasts. Mais parfois, bah, il y a les miniatures de ces podcasts qui peuvent rentrer en contradiction avec la charte de Google. Et le créateur de Podcast Addict passe beaucoup de temps à essayer de dire à Google « Oui, alors c'est mignon, mais c'est pas moi qui veux ça, c'est juste bah, mon application accepte des sources externes et je peux pas gérer des sources externes.
Mmh. » Ouais. Il ne peut pas ou il ne veut pas ?
Il ne peut pas, parce que les flux RSS, c'est pas lui qui en détient la gestion.
Ouais, okay, dans
c'est à chaque créateur de podcast qui met à disposition. Et voilà. Et ça pose beaucoup de problèmes. Enfin, ça a posé beaucoup de problèmes, et ça posera encore sans doute beaucoup de problèmes. Mm-hmm. Parce que ben, c'est des entreprises privées qui gèrent ces stores-là.
Mm-hmm. Ok. Voilà, donc business oblige.
Puritanisme oblige.
Nasdaq oblige. Vol des données oblige, ce petit programme de peinture au doigt qui demandait à avoir accès aux contacts et aux photos, on se demandait un peu pourquoi. Ben parce que ça rapporte. Donc chez F-Droid, pour les, voilà, ils ont un petit peu rangé les différents programmes qui viennent à ce moment-là de grosses équipes ou de petites équipes. Enfin, bon, c'est vrai que si on a VLC dans F-Droid, okay, derrière VLC, on sait que c'est quand même...
Il y a un peu de tout. Il y a des programmes qui sont très confidentiels et qui sont gérés par des toutes, toutes petites équipes. Mm-hmm. Et puis des plus gros programmes. Okay. Typiquement, bah, VLC en fait partie. Il y en a tout. Et il n'y a pas non plus que des applications gratuites.
Mm-hmm.
Moi, je prends par exemple l'application de mail que j'utilise, qui s'appelle Fairmail. Eh ben, le créateur de cette application a des fonctionnalités avancées. Et pour accéder aux fonctionnalités avancées, il y a un abonnement à payer. C'est juste un coût d'usage à vie. Mais il a rendu possible de pouvoir. Et on parlait de l'apéro, donc c'est ces moments-ci qu'on discutait tout à l'heure. Mais en fait, il a rendu possible de pouvoir payer l'application et de la faire reconnaître sans être lié au Google Play Store.
Ok, donc on peut la télécharger indépendamment chez lui ou alors via F-Droid.
Voilà, on peut l'installer via F-Droid, et après, via un échange de mail, on la fait reconnaître comme « Eh, moi j'ai payé ma licence, et du coup j'ai droit à mes fonctionnalités avancées. » Et voilà, ça se fait de manière très très simple, dans le cas de Fairmail. Et à l'époque, moi, j'étais pas contre de rémunérer les auteurs des applications.
Que des nids, hein. Loin de là.
Il n'y a pas de ça. Mais typiquement, Podcast Addict, qui était une application que j'ai achetée à l'époque, ben, je ne l'utilise plus parce que je ne peux plus faire reconnaître, sans passer par les services de Google, que j'ai payé une licence.
Croyez. Et donc, pour le podcast, c'est une forme de lien RSS ?
Oui, oui, j'ai trouvé d'autres applications. Mais...
Ouais, pour voir ce qu'il y avait chez F-Droid en RSS disponible.
Alors, la celle que j'utilise beaucoup actuellement, c'est AntennePod, qui est chez F-Droid, et qui me satisfait pleinement.
Donc voilà, ils ont répertorié les différents programmes qu'ils hébergent. Bon, on peut faire un petit calcul à la louche. Donc en connectivité, il y a 235 programmes. Pour le développement, il y en a 161. Pour le jeu, il y en a 400. Ça devrait quand même rassurer Zenzla qui disait tout à l'heure que bordel, je ne pouvais plus jouer dans la salle d'attente, je ne pouvais plus jouer dans les trams. En graphisme, il y en a 66. Pour les programmes d'internet, 595. Des programmes liés à la finance, eh bien, il y en a 117. Au niveau du multimédia, il y en a 446. Pour la navigation, eh bien, on est à 205 programmes hébergés chez F-Droid toujours. Téléphone et SMS, 98 programmes. Lecture, hein, avec justement un super lecteur de flux RSS libre et gratuit. On est à 200 programmes chez eux. Science et éducation, 302. Tout ce qui est sécurité, crypto, shelter isolé, les applications Big Brother, comptes multiples, il y en a 196. Des programmes liés au sport et à la santé, pour écouter du bruit blanc, par exemple, pour vous détendre, ou alors avoir le certificat Covid Suisse. Ça donne, il y en a 153. Des programmes au niveau système, il y en a 567. Vous pouvez personnaliser votre ordinateur de poche avec 169 programmes différents. Au niveau du temps, pour avoir votre minuteur de méditation élégant ou chronométrer votre thé pendant qu'il infuse, vous avez 187 petits programmes. Et au niveau de l'écriture, il y en a encore 222.
Ouais. Mais alors, si je peux
à la louche, ça en fait quoi, 2580 ?
Ça en fait beaucoup. Mais si je peux me permettre d'en parler de trois, je vais essayer de me limiter à trois. Il y a Shelter que tu venais de citer, qui est une chouette application qui permet en gros, dans votre Android, de créer un nouveau profil. Où dans ce nouveau profil, vous allez pouvoir installer des applications. Mais ces applications n'auront pas accès à vos données personnelles. Parce qu'il va, donc Shelter, c'est vraiment pouvoir isoler certaines applications. Et quand elles vont vouloir accéder à vos contacts, ben en fait, ce sera vide.
Ah ouais,
parce que le nouveau profil ne contiendra pas de contacts. Quand il voudra accéder à l'historique de vos appels, même chose. Les SMS, même chose. Donc ça peut être intéressant d'installer Shelter pour aller mettre ces applications un peu sales. Bonjour les banques. Et de vraiment pouvoir les isoler. Alors, une autre application que j'aimerais aussi discuter, si j'y arrive, c'est Organic Map. Alors, c'est... On a souvent l'habitude de parler de OSM, qui est OpenStreetMap sur téléphone, mais personnellement, l'application est très très lente sur mon téléphone. Et Organic Map utilise aussi les cartes d'OpenStreetMap, mais l'application est beaucoup plus... moins chargée, plus pertinente dans pas mal de cas, et fonctionne comme OSM, donc avec des cartes offline et des points d'interaction à peu près partout. Du coup, je vous la recommande. Donc, c'était Organic Map. Et j'en avais une petite dernière. Element.
Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah bah tiens. Hein, notre super... Salon de discussion et de vidéo, visio et audio.
Voilà, sachez qu'il se trouve aussi sur le F-Droid. Donc voilà, plein de choses.
Ouais, pas d'excuses. Bon, j'ai l'impression que notre source du soir, du premier vendredi, du premier apéro, même des nouveaux auditeurs à quatre pattes, on va aller leur faire un petit coucou. Et je vous mettrai encore en contact avec nos copains collègues de l'Illux User Group de Namur, tout près de chez nous. Ça,
ça change la France. Et oui, voilà, un petit rappel sur ce qu'est effectivement le libre, d'une manière beaucoup plus badine. C'était un symposium à la mer.
C'est parti trop vite.
Non, parce que voilà, il y a du beau monde là-dedans. Donc leur professeur Nabra Adjil et Nicolas Pétiot et Philippe Laurent sont des intervenants de cette petite causerie, voilà, toujours autour du libre, hein, université libre, apéro libre. mais là, plus court, là vraiment on se retrouve dans un petit quart d'heure, hein, voilà, symboliquement, mais je crois qu'il faut taper sur le clou pour que ça rentre.
C'est la crise, les fins de mois sont difficiles et vous n'avez plus un euro en poche. Difficile dans ces conditions d'équiper votre nouvel ordinateur de la suite bureautique dont vous avez tant besoin. Les prix des grandes marques vous ont définitivement refroidi. Vous avez bien pensé au logiciel pirate, mais votre honnêteté vous l'interdit et puis rien ne vous garantit qu'ils ne sont pas infectés par des virus. Alors, que faire ? Eh bien, pourquoi ne pas essayer les logiciels libres ? Une petite recherche sur Internet et aussitôt vous arrivez sur framasoft.net où plus de 1400 logiciels libres sont référencés. La suite OpenOffice, par exemple, vous offre traitement de texte, tableur, base de données, le tout en toute légalité et sans débourser 1 euro. Pour en savoir plus, nous avons pour vous poussé la porte de l'atelier du Linux User Group namurois. Ici, aux facultés de Namur, tous les derniers mercredis du mois, des animateurs apportent aide et conseils à tous. Alors, première question, le logiciel libre est-il une alternative valable au logiciel propriétaire ?
Il est certain que quand on parle de logiciel, il y a une quantité relativement variée de types de logiciels. Donc, dans chaque catégorie, on trouve des alternatives, dans le sens, est-ce que ça peut remplacer ? Je vous dirais oui. Donc, deviennent maintenant très rares les catégories de logiciels dans lesquelles on n'a pas une alternative à un logiciel propriétaire. Quant à savoir si elles sont valables, dans chacun des cas, c'est à l'utilisateur à voir si ça correspond à ses besoins. La seule chose qu'on peut répondre, c'est qu'il y a maintenant de très nombreux logiciels qui sont d'une qualité suffisante que pour être reconnus par le monde professionnel.
Et les logiciels libres répondent amplement aux besoins de monsieur et madame tout le monde. OpenOffice pour la bureautique, GIMP pour le traitement de l'image, Firefox pour surfer sur le net, Thunderbird pour votre messagerie électronique, Inkscape pour vos dessins vectoriels, VLC Media Player pour la lecture de vos fichiers multimédia, Audacity pour traiter du son, Scribus pour la publication assistée par ordinateur, et pourquoi pas Blender si vous désirez vous lancer dans l'image 3D animée. Notons aussi que beaucoup de logiciels libres sont multiplateformes. Ils fonctionnent indifféremment avec Windows, macOS ou Linux. Ils sont aussi accessibles à tous. Pas besoin d'être un crack en informatique pour les installer et les utiliser.
Alors, il ne faut pas mélanger les logiciels libres d'un côté avec Linux, qui est un système d'exploitation qui, lui, il fut un temps, était effectivement réservé à des initiés. Maintenant, vous allez utiliser par exemple Firefox ou OpenOffice. N'importe qui, on le voit tous les jours dans nos activités, peut le télécharger, l'installer, sans même à la limite qu'il se rende compte qu'il s'agit d'un logiciel libre. Et il ne faut pas de compétences spécifiques en informatique pour utiliser la plupart d'entre eux.
Il n'est pas facile de trouver dans le commerce un ordinateur dont le système d'exploitation est Linux. À l'achat, un ordinateur fonctionne pratiquement toujours avec un système d'exploitation propriétaire qui est préinstallé. Si vous voulez Linux, vous devez donc généralement l'installer vous-même. Aujourd'hui, cela se fait assez facilement, surtout si vous ne conservez que Linux. Faire coexister le libre avec le propriétaire, c'est possible, mais un peu plus compliqué. Maintenant, reste à choisir, car, par définition, le code source d'un logiciel libre est accessible à tous. N'importe quel programmeur peut donc assembler les briques logicielles de Linux en y ajoutant ses propres créations et en faire ce qu'on appelle une distribution Linux. Des distributions, il y en a des centaines, Ubuntu, OpenSUSE ou Mandriva sont conseillés pour une utilisation grand public.
Maintenant, il est clair que c'est aussi la richesse du monde du logiciel libre, c'est qu'on peut avoir des systèmes d'exploitation adaptés à ses besoins. Et donc forcément, si vous voulez, pour votre entreprise ou pour votre système familial, avoir un serveur de fichiers ou un serveur de type Internet, vous n'avez pas les mêmes besoins que quelqu'un qui a besoin de simplement gérer ses photos.
Beaucoup de logiciels libres sont peu gourmands en ressources matérielles et Linux est paramétrable pour s'adapter à des machines moins puissantes. C'est intéressant pour recycler de vieux ordinateurs dans les pays en voie de développement ou même chez nous. Enfin, le code source de Linux étant ouvert, les failles de sécurité sont extrêmement rares et les virus, pour ainsi dire, inexistants. Un antivirus est donc inutile. Mais au fond, au-delà de ces différents avantages, qu'est-ce qui différencie exactement le libre du propriétaire ? Pour cette question, direction le Centre de recherche informatique et droit de l'Université namuroise. Philippe Laurent est chercheur, il nous explique que la distinction se fait moins sur le plan technique que sur les plans social, économique et juridique. Une licence propriétaire permet seulement d'installer et d'utiliser un logiciel, pour le libre, c'est différent.
La licence libre permet beaucoup plus. Donc elle permet de reproduire le logiciel gratuitement, de l'installer sur n'importe quelle machine, de modifier le logiciel, même de redistribuer le logiciel ainsi que éventuellement toutes les modifications qu'on a apportées au logiciel. Donc ça c'est vraiment la distinction, ce qui différencie un logiciel propriétaire d'un logiciel libre, c'est le contenu de sa licence.
Il existe une grande variété de licences libres, mais deux grandes catégories se distinguent. Les licences copyleft, qui imposent de redistribuer le logiciel sous la même licence libre, et les non-copyleft, qui autorisent tout et n'engagent à rien. En tout cas, si la licence libre est plus permissive que la propriétaire, elle a néanmoins toute sa raison d'être. Car contrairement à l'idée reçue, les logiciels libres sont protégés par le droit d'auteur comme les logiciels propriétaires. Mais si les programmeurs du libre font usage de leur droit d'auteur, ils sont fermement opposés aux brevets.
La distinction avec les brevets, c'est quoi ? Eh bien, c'est que le droit d'auteur protège la forme des œuvres, et le logiciel est assimilé à une œuvre. Donc le droit d'auteur protège la forme et pas les idées. Donc deux développeurs pourraient développer plus ou moins le même logiciel avec plus ou moins les mêmes fonctionnalités, mais chacun de son côté arrivera probablement à une forme différente. En matière de logiciel, ce que le brevet va protéger, c'est la fonctionnalité en tant que telle et pas la forme, donc pas le code.
Prônée par l'industrie des logiciels propriétaires, la brevetabilité des logiciels est donc souvent comparée à un champ de mine. Il existe des milliers de brevets et il est impossible de les connaître tous. Ainsi, à tout instant, un programmeur risque sans le savoir d'introduire dans son logiciel une fonctionnalité qui est brevetée. Ce problème ne se pose pas avec le droit d'auteur puisqu'il est quasi impossible d'obtenir une contrefaçon sur la forme, hormis bien sûr le plagiat pur et simple du code. Aux États-Unis, les logiciels sont brevetables. En Europe, par contre, c'est théoriquement interdit par une convention européenne. Mais cette interdiction est contournée et des milliers de brevets ont déjà été accordés grâce à une libre interprétation du texte. Les brevets logiciels freinent pourtant l'innovation technologique et par là même le développement des logiciels libres. Car contrairement aux logiciels propriétaires, le mouvement du logiciel libre est basé sur le partage de la connaissance. Via Internet, le développement du libre s'organise en communauté composée d'utilisateurs et de développeurs du monde entier. Ce mode de création favorise la démocratisation et la diffusion de l'innovation, en constituant un patrimoine universel de connaissances, de méthodes et d'outils logiciels accessibles à tous. C'est ce que nous avons appris en nous rendant au centre Precise, un centre de recherche sur l'ingénierie et la gestion des systèmes d'information avancés.
L'avantage principal, le fait que le source est ouvert, c'est permettre une innovation accélérée. C'est-à-dire, le fait qu'on a accès à ce que l'autre a développé avant, il y a moins de freins à l'innovation. Ceci a tout son sens si on considère, et c'est le cas, je pense, le logiciel comme un service en évolution, un produit qui s'empile avec d'autres produits. Donc, on utilise rarement aujourd'hui pour répondre au service d'un usager un seul logiciel produit de A à Z par une personne ou par une équipe.
Tout le monde sort gagnant du fonctionnement communautaire. Les développeurs voient leurs compétences et leurs produits progresser plus rapidement. Et les utilisateurs, en participant à l'évaluation du produit, bénéficient d'un outil très évolutif. L'efficacité des communautés se traduit par une grande réactivité et une meilleure productivité.
Ça montre aussi que le logiciel libre permet, notamment aux PME et le tissu économique européen, c'est surtout fait des petites et moyennes entreprises, permet à ces entreprises d'évoluer plus rapidement, d'économiser sur le budget recherche et développement, qui peut être très coûteux pour les petites entreprises, et créer de l'innovation, créer de la valeur ajoutée avec un petit investissement bien ciblé en innovation. Je dirais même une petite entreprise avec ça, elle gagne, elle n'a pas le ticket d'entrée qui peut être très cher pour entrer dans un marché innovant grâce au logiciel libre.
Attention, libre n'est pas synonyme de gratuit. La plupart des logiciels libres sont gratuits, mais certains sont payants. Des entreprises tirent profit de la demande pour des produits certifiés. C'est le cas par exemple de l'américain Red Hat, qui propose aux entreprises des logiciels libres et des services. Ne tirant pas profit de licences, le modèle économique du libre trouve ses bénéfices dans les activités de services créées autour du logiciel. Il y a le conseil, l'installation, l'adaptation, l'évolution, la formation ou encore la garantie et le suivi du service. En Belgique, les sociétés de services au logiciel libre sont encore rares et cela constitue un frein à la progression du libre dans le monde de l'entreprise. Car une petite société ne dispose pas nécessairement d'un service informatique et doit donc faire appel à l'extérieur. Malgré tout, constate Annick Castiaux, la part de marché du libre progresse en entreprise. Depuis longtemps utilisé pour les serveurs web, le libre s'installe aussi sur les postes de travail et cette tendance va sans doute se confirmer avec la crise économique, l'attrait du coût modéré jouant en faveur du libre.
Et puis il y a aussi un aspect de compatibilité avec des solutions plus globales. Quand on utilise un logiciel propriétaire, on se retrouve quelque part prisonnier de ce logiciel. On utilise les formats imposés par le format propriétaire, donc on est obligé après de suivre sans cesse ce type de format. On est prisonnier de ce qui a été imposé par le vendeur de ce logiciel propriétaire. Dans le monde des logiciels libres, on est dans une philosophie tout à fait différente, où les formats utilisés sont des formats tout à fait libres, tout à fait ouverts, avec le souhait qu'ils soient compatibles, y compris par d'autres logiciels. Donc quand on veut éventuellement évoluer vers une autre solution, on n'est pas prisonnier, on peut utiliser cette autre solution.
Dans le secteur public, le libre progresse aussi. Parmi les initiatives, épinglons celles qui concernent nos écoles. Avec le plan Cyberclass, toutes les écoles de la région wallonne peuvent bénéficier d'un nouvel équipement informatique. 40 000 ordinateurs sont prévus, soit un pour 15 élèves. Chaque ordinateur aura un double amorçage, système d'exploitation propriétaire et libre. Pour la suite bureautique, le choix s'est porté sur le libre avec OpenOffice. Au niveau communal, deux communes wallonnes initient en 2005 un projet collaboratif pour développer des outils adaptés d'e-government. Elles sont maintenant 75 au sein du collectif Commune Plône. Leurs objectifs sont le partage d'expériences et la mutualisation des coûts de développement afin d'atteindre leur indépendance informatique. L'initiative concerne aujourd'hui tous les niveaux de pouvoir en Wallonie et s'est étendue au niveau international via PlaneGov qui touche 20 pays aux quatre coins du monde.
Définis comment ça doit être et qui est bien respecté. Et à ce moment-là, tout le monde peut accéder à tout.
Que ce soit dans le public ou dans le privé, le logiciel libre permet par l'accès au code une plus grande transparence. La démarche garantit un meilleur respect des libertés fondamentales. C'est ce que Nicolas Pétiot nous a expliqué. Il fait partie de l'association francophone April qui défend le logiciel libre.
Comme l'a dit un grand juriste d'origine américaine, Lawrence Lessig, le code est la loi. Donc ceci signifie que par l'intermédiaire du code informatique qui est programmé par les programmeurs, on fait implicitement la loi dans le monde informatique. Et donc, dans ce cadre-là, il est extrêmement important d'être très très vigilant aux droits qui sont associés à ce code qui sera distribué ou qui sera utilisé, en tout cas, pour avoir accès aux moyens informatiques.
La démarche du logiciel libre garantit aussi le libre accès à l'information. Elle permet de réduire la fracture numérique.
Aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus contrôlé par des technologies, par l'informatique en général, que justement ces technologies ne créent pas de nouvelles barrières. Donc vraiment que on utilise ces technologies dans ce qu'elles ont de meilleur pour libérer l'homme et pour rendre les hommes plus interactifs les uns avec les autres, pour créer une grande communauté d'hommes qui s'entraident.
En conclusion, c'est à vous de choisir. Entre la fenêtre et la pomme, n'oubliez pas que vous avez aussi le pingouin. Pour le trouver plus facilement, commencez par installer des logiciels libres sur votre OS propriétaire.
Bien, et il était question de pouvoir enchaîner rapido vis-à-vis ça avec un petit moment un peu plus fun, bien sûr, parce que c'est important de se détendre après avoir emmagasiné autant de données d'informations. J'avais un petit bout de JC Frog, vous savez, ce super libriste qui aime beaucoup la musique, qui a dizaines de guitares et qui aime bien un petit peu se foutre la gueule de certaines chansons. Non, c'est pas vrai. Non, il les réhabille, il les réinterprète et je pense que ce serait lui, tiens, le retweet de JC Frog. Allez, je pense que ça va se mettre. Ouais, ça se met.
Chers neurones, esprits sauvages de toutes les plages IP, nous nous sommes bien amusés toutes ces longues années, c'est vrai. Mais il est temps, je crois, de mettre un terme à notre inconscience et notre inconséquence. Et d'écouter enfin les esprits éclairés et avisés qui nous conseillent d'aborder enfin avec sagesse et gravité.
Une question centrale, celle de l'Internet civilisé.
Si on te civilise un Internet policé, où tu croupiras vite. Si on te fait surfer sur un réseau sans armes, de blogs sponsorisés. Si tu réalises qu'on t'enfume le nougat, que ces bons en cravate veulent te voler la toile, retweet, pauvre que tu existes, ce monde n'est plus le tien, viens, bats-toi, fils et retweet, oh, retweet, suis ton cœur qui décrète. Ce monde n'est plus le tien. Viens, rejoins-nous, reconstruis. Retweet. S'ils veulent te faire gober que certains contenus ont la priorité. S'ils veulent faire enfermer de courageux fuiteurs des lits de vérité. Si tu réalises qu'on t'enfume le nougat, que ces bons en cravate veulent nous voler la toile, retweet, prouve que tu existes, ce monde n'est plus le tien, viens, bats-toi, fils et retweet, oh, retweet, suis ton cœur qui décrète. Ce monde n'est plus le tien. Viens, rejoins-nous, reconstruis. Résiste. Tweet pour rebooter le monde. Tweet pour tous ceux qui ont peur. Tweet pour les milliers de fronts qui ont droit au routeur. Résiste.
Je ne dis même pas de l'Internet régulé. Je dis de l'Internet civilisé.
Voilà le JC Frog que vous pouvez retrouver sur son instance PeerTube qui s'appelle... c'est pas du hasard, hein, même pas un premier vendredi de chaque mois. Apéritube. Appery.tube. Et de manière très mnémotechnique, retenez simplement cette petite gourmandise fromagère reconstituée des grands moments. Je sais pas s'il y a encore des petites blagues à l'intérieur de l'aluminium, là, comme ils avaient fait pendant tout un temps.
Oh, oui, des petites, oui, mais je vois très bien oui, donc, des petites phrases.
Total, mais non, c'est du Carambar avait commencé avec ça, mais alors ils ont réussi à faire encore plus miniaturisé. Donc voilà.
C'est fabuleux. Et alors, moi, j'ai plein de choses à dire par rapport à cette musique. C'est un, Trump ne peut plus.
Trump ne peut plus.
Bah, il peut plus retweeter. Il a été banni de cette plateforme. Et c'est bien parce qu'il commence, il s'est dit, moi j'ai fait mon propre réseau social à moi où la liberté d'expression va être garantie.
Et contrôlée.
Et contrôlée.
Mais garantie. Mais contrôlée.
Oui, c'est juste. C'est une pâle copie de Mastodon et en plus sans respecter la licence de Mastodon. Donc ça fait déjà un tollé avant même que ce soit lancé. C'est magique. Mm-hmm. Et l'autre petite chose, c'est. Mais. Contrôlez-moi cet internet, hein, des anarchistes, ça ne va pas.
Et c'est ça, quoi, c'est civilisé. Hein. Ouais.
Et malheureusement, les États essayent. Et parfois, ils y arrivent. Et on peut citer plein de pays où, justement, l'internet est complètement contrôlé et mesuré. On peut prendre le cas de l'Inde qui coupe internet quand c'est les périodes d'examen pour éviter les fuites des questionnaires. Entre autres, hein, c'est une raison légitime de couper Internet chez eux.
Voilà, pour ne pas tricher.
Mais on peut prendre plein d'autres pays. Hein. Bon, la Chine, c'est facile. La Russie, c'est déjà un peu plus ambigu. Qu'ils ont réussi à faire leur propre Internet à eux, rien qu'à eux, avec eux.
Ouais, la Somalie maintenant, le Soudan, l'Égypte à une époque, le printemps arabe. Ouais, non, on a fait une émission ici avec des super équipes qui se mettaient transborders. Frontaliers pour quand même envoyer du signal Wi-Fi sur des petits modems 56K.
Et alors, il ne faut pas aller très loin non plus, hein, dans notre pays, le plat pays. Sachez que l'État a des moyens juridiques bien ancrés avec les opérateurs à nous de pouvoir surveiller un individu dans dans une enquête. Mmh. Voilà. C'est possible aujourd'hui.
C'est possible aujourd'hui.
C'est pas possible aujourd'hui, c'est automatisé aujourd'hui. Et sachez aussi que nos jolis opérateurs sont rémunérés pour pouvoir faire ce travail.
Il y a un petit budget de surveillance qui est prévu au nom de la Sûreté de l'État.
Oui, c'est 1,3 million, il me semble, qui est partagé entre vous, Telenet et Proximus. Une petite enveloppe, une paquette d'ail. Voilà, comme j'ai dit, il ne faut pas spécialement aller chercher très très loin, parfois déjà juste dans notre pays. Il se passe des choses, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus longuement parce que c'est un gros dossier.
Oui, je pense aussi. c'est un moment étrange hein, que ces belles époques nous permettent d'avoir plein de sensations, de sentiments de liberté, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir se consacrer à ses loisirs. Mais en même temps, technologiquement parlant, ça commence à se resserrer un petit peu plus.
Et c'est intéressant parce que cette semaine, moi, j'ai reçu un petit mail d'un groupe de chercheurs qui demandait aux opérateurs des internets de savoir, comment vous interconnectez les uns les autres et d'expliquer est-ce que c'est régi par des lois locales, est-ce que c'est régi par un contrat commercial ou régi autrement. Mmh. Et en fait, tous les 5 ans, ils font cette étude. Donc, ils ont commencé en 2011. Du coup, on va avoir la troisième fournée. Ici en 2021. Et l'idée qui est derrière, c'est d'expliquer aux États de non, vous n'avez pas besoin de réguler. Ça se fait déjà naturellement. Donc ne venez pas réguler des choses que vous ne comprenez pas et laissez les acteurs s'auto-réguler parce qu'ils y arrivent.
Donc c'est le fameux mythe de match de football sans arbitre et sans juge de touche. Les joueurs savent se contrôler eux-mêmes.
Il y a toujours des dérives et il y aura toujours. C'est inévitable avec l'être humain. Mais il n'y a pas toujours besoin de contrôler tout de A à Z.
De fait.
Ouais. La preuve des logiciels libres.
Dont on vous reparlera encore dans 15 jours et puis dans un mois, voilà, la place à What is in the Chips, vu que c'est l'apéro. Et merci Tare Rock, on sait bien que l'apéro a eu finalement plus de succès que le studio pour Source. Hein.
Mais c'est que partie remise.
Bien sûr. Merci, tout bientôt Tare Rock.
Salut.
Où le programme a le contrôle des utilisateurs.
La seule incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Salut, ça va?
Ça va, toi?
Bah bien, tranquille.
Qu'est-ce que t'as fait hier?
Bah j'ai écouté Radio Campus.
Arrête, toute la nuit?
Bah toute la nuit.
Ça passe la nuit, ça?
Ah, j'ai pas dormi.
Arrête.
Ah ouais, Radio Campus.
Ouais, l'autre.
C'est la radio.